Monsieur Kevin Granger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole adjoint de l'UDC Suisse, roman évidemment de langue française, et nous allons parler aujourd'hui un petit peu de cette campagne sur la libre circulation qui semble connaître, disons, comme un certain emballement, du moins en Suisse romande. On a l'impression que une urgence s'est créée.
Alors effectivement, on a pu constater dans la presse ces derniers jours, notamment la lecture de courriers de lecteurs, notamment à la lecture d'articles relevant l'inquiétude de régions frontières, qu'effectivement il y avait au sein de la population un sentiment de ras-le-bol quant au laisser-faire des autorités sur cette question de la libre circulation des personnes.
Alors en même temps, on assiste, disons, à la multiplication des interventions des conseillers fédéraux. On est heureux qu'ils aient autant de temps à consacrer disons, à la communication avec le bon peuple. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Enfin, je veux dire, c'est nouveau, non?
Alors effectivement, c'est un phénomène assez nouveau et je crois qu'il est aussi important de rappeler que ce n'est pas eux-mêmes hein, qu'ils financent leur représentation, c'est l'argent du contribuable, c'est aussi mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Et effectivement, c'est une des mesures là aussi incroyables dans la représentation des institutions. Ça a commencé en fait déjà au lendemain de la dernière votation. Au mois de novembre 2013, le lundi qui a suivi le dimanche de votation, pas moins de 3 conseillers fédéraux, et ça c'est sans précédent, 3 conseillers fédéraux se sont présentés devant la presse et avaient lancé ainsi le coup d'envoi de cette campagne contre notre initiative. Voilà. Et depuis, c'est pas moins de 30 représentations à travers tout le pays, sur des plateaux de télé, dans le cadre d'événements organisés par différents milieux, que ces 3 conseillers fédéraux se sont produits. Donc là, évidemment, il y a, je crois, comme conseiller fédéral, un certain devoir de réserve. D'ailleurs, Monsieur Blocher, en son temps, en avait fait les frais. Eh ben, voilà, peut-être le traitement est différent quand c'est contre l'UDC qu'il faut agir. Là, on met des moyens publics à disposition, on met du temps à disposition, et puis on s'engage très fortement dans cette campagne du côté du Conseil fédéral.
Alors, disons pour nos auditeurs, on peut rappeler qu'évidemment l'UDC s'était déjà opposé à la petite brochure d'information qui était déjà trop en termes d'interventionnisme du Conseil fédéral. Là, on peut dire quand même qu'ils sont passés à la vitesse supérieure.
Alors effectivement, si on comprend bien le fonctionnement des institutions démocratiques, en tout cas dans un pays idéal, ce serait que l'exécutif exécute les missions qu'il reçoit du souverain et non pas d'influencer les décisions du souverain. Alors on peut tolérer peut-être une certaine information qui peut se cantonner, pourquoi pas à une conférence de presse, pourquoi pas à l'allocution télévisée. Mais de là à investir plusieurs millions de francs, à se produire sur des affiches, sur des annonces, à partir dans des événements, à aller à la télévision, on est bien au-delà du simple devoir d'information, on est véritablement dans une campagne, et c'est finalement irresponsable de la part du Conseil fédéral, parce que, en cas de défaite le 9 février, quelle crédibilité auront encore Madame Sommaruga, Monsieur Burkhalter à Bruxelles, alors qu'ils ont perdu en Suisse? Est-ce que les fonctionnaires européens vont continuer à parler avec Madame Sommaruga, avec Monsieur Burkhalter, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas représentatifs du peuple suisse? Ça, c'est une véritable mise en danger de la stabilité de nos institutions, ce que le Conseil fédéral est en train de faire aujourd'hui.
C'est infiniment un peu le danger. Le Conseil fédéral nous vend la fin du monde, ou du moins la fin des relations avec l'Union européenne, mais c'est beaucoup plus risqué d'aller au feu et de perdre que de simplement s'en tenir à la décision du peuple. C'est ça que vous nous dites.
Ben oui, alors et ceci à plusieurs égards. Non seulement effectivement, je crois que il faut sûrement le rappeler aujourd'hui, le souverain en Suisse, c'est le peuple. C'est pas le Conseil fédéral qui doit dicter sa volonté au peuple, c'est bien le contraire. Donc le Conseil fédéral doit se faire notre porte-parole en tant que peuple. Et si le peuple, à l'issue d'un débat démocratique, d'ailleurs qui est déséquilibré, tous les partis sont quand même opposés à l'UDC, tous les associations économiques. Donc il n'y a pas encore besoin du Conseil fédéral ni de la conférence des cantons pour appuyer ce déséquilibre. Donc, si après un débat comme ça, le peuple se prononce et dit, nous ne voulons plus de cette immigration incontrôlée en Suisse, il est là du devoir du Conseil fédéral d'aller à Bruxelles et de dire, cette matière de fer ne nous convient plus, nous voulons renégocier. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Évidemment que dans la situation actuelle, où on a un conseil fédéral qui s'est engagé corps et âme dans le combat, en cas de défaite, il sera en très très mauvaise posture pour nous représenter. Mais j'ai envie de dire, c'est de sa faute. Il devra assumer probablement que si M. Burkhalter, Mme Sommaruga, devait perdre le 9 février, ils devraient se poser la question d'une démission, parce que leur propre crédibilité aussi à l'égard de nos partenaires extérieurs serait clairement remise en jeu.
Enfin, vous le dites, hein, la coalition est pléthorique, on a tous les partis, on a le Conseil fédéral, un grand nombre d'institutions, et puis on a évidemment toute la machine médiatique d'État. On découvre, disons, un visage un petit peu nouveau. Est-ce que vous pensez que ce branle-bas de combat sent un petit peu la peur, finalement? Est-ce que c'est pas un réflexe de panique?
Alors probablement qu'il y a là un réflexe de panique, et c'est déjà un signe aujourd'hui que la stratégie européenne du Conseil fédéral est une stratégie perdante. C'est que si le Conseil fédéral est dans l'obligation de voir par toutes sortes de méthodes qu'il contrôle, vous avez dit les moyens médiatiques contrôlés par l'État, ça veut dire toutes les télévisions, ça veut dire toutes les radios, notamment de notre pays. Si ce Conseil fédéral est aujourd'hui dans l'obligation de devoir mettre en œuvre l'ensemble des moyens qu'il a à disposition pour tenter de convaincre un petit 50%, parce qu'il n'aura guère mieux, au meilleur des cas, le Conseil fédéral va gagner ce vote avec un petit 50%, eh bien, c'est la preuve que sa stratégie à l'égard de l'Union européenne est un échec. Le pays est divisé sur la question et il est incapable de l'unir.
Est-ce que, pour aller un peu plus au fond des origines sociologiques de ce phénomène, il n'y a pas eu un coup de chaud suite à la votation sur l'initiative Minder, où tout d'un coup, certains milieux se sont dit on n'a pas mis assez de moyens, on n'a pas mis assez d'argent, et finalement la démocratie n'est qu'une question d'investissement publicitaire.
Alors, ben, c'est intéressant que vous parliez de l'initiative Minder, parce que, à titre de comparaison, le Conseil fédéral s'en est tenu à une seule représentation, à une seule information, une intervention de sa part dans le débat public pour contrer cette initiative. Preuve, s'il en est, que le Conseil fédéral choisit ses thèmes, hein, évidemment, pour se représenter. Il y a deux poids, deux mesures en fonction de savoir si en face il y a une machine comme l'UDC qui lance des propositions. Ça, je crois que c'est intéressant vraiment de le relever. Et puis, pour son interventionnisme, j'aimerais à nouveau rappeler les bases de la démocratie. Là, il s'agit, notre système démocratique, pour qu'il fonctionne, il doit pouvoir être encadré par des institutions solides, crédibles, reconnues, qui garantissent à l'intérieur de celle-ci, le jeu démocratique. Et en faisant ce qu'ils font, les représentants actuels de ces institutions utilisent, instrumentalisent le système politique suisse à des fins politiques. Tant qu'ils gagnent, évidemment, ils pourront toujours justifier que c'est ce qu'il fallait faire, mais le jour où ils perdent, ils auront pour longtemps gravement endommagé ces institutions. De nouveau, je repose cette question. Quelle sera la crédibilité du Conseil fédéral quand il faudra retourner à Bruxelles, renégocier les prochains accords, alors qu'il n'a plus le soutien du peuple? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera l'attitude des partenaires européens? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'ils vont pas simplement dire, mais écoutez, messieurs, dames, vous êtes bien gentils, mais manifestement, vous n'êtes pas représentatif du peuple suisse, il nous faut donc d'autres partenaires de dialogue.
Et en même temps, ce sont les mêmes qui veulent, disons, brider les initiatives avant qu'elles ne soient déposées. Donc il y a une volonté de ne plus être confronté, de ne plus être en position de perdre.
Alors effectivement, et là on est entré depuis une vingtaine d'années dans un conflit de fond qui est important, c'est celui de savoir quel est je dirais, l'axe de la prise du pouvoir. En Suisse, il est constitutionnellement déterminé que le souverain, c'est le peuple. Donc le peuple décide et les politiques ensuite exécutent. Ça, c'est le principe. Mais depuis effectivement une vingtaine d'années, on assiste à un phénomène de renversement où de plus en plus de décisions se prennent à l'extérieur de nos frontières, à Bruxelles ou ailleurs. Et puis, ça a pour conséquence de mettre le Conseil fédéral dans une position peu confortable. D'une part, il a depuis Bruxelles probablement un certain nombre de prérogatives ou d'exigences qui sont attendues. Et puis, d'autre part, il y a ce peuple dessous qu'il est censé représenter. Et le Conseil fédéral, et ça c'est un avis personnel, mais je crois que c'est un avis qui est conforme à l'esprit constitutionnel en Suisse, le Conseil fédéral ne devrait pas se transposer de questions, il devrait aujourd'hui se dire, nous sommes les représentants du peuple suisse et nous devons appliquer les décisions que le peuple suisse, que finalement les citoyens de ce pays décident pour leur avenir. et non pas tenter de convaincre les Suisses du bien fondé de la politique des fonctionnaires européens. Et aujourd'hui, on a affaire à ce conflit-là, une tentative effectivement de bureaucratiser la prise de décision en Suisse, le pouvoir politique, et là, il y a danger. Là, il y a danger. Les Suisses risquent effectivement, d'ici quelques années, de perdre leurs prérogatives démocratiques, de perdre leur pouvoir de citoyen.
Mais alors, je caricature un petit peu, mais à vous entendre, on a l'impression que Bruxelles et un certain pan du monde financier n'ont qu'à siffler pour que le Conseil fédéral soit au garde-à-vous. Est-ce que c'est vraiment l'UDC, qui est pourtant le premier parti de Suisse, seul contre les institutions, seul contre l'establishment?
Alors, ça semble être le cas. Moi, je suis effectivement également atterré de voir le Conseil fédéral se faire de plus en plus souvent le porte-parole des exigences européennes en Suisse. Le Conseil fédéral qui soumet à consultation un certain nombre de révisions de loi dans l'esprit de Bruxelles et puis qui tente de convaincre les politiciens cantonaux qui sont les conseillers d'État, donc les responsables dans les gouvernements cantonaux, par exemple pour des raisons fiscales, adapter le droit actuel, qu'il faille également peut-être s'aligner sur Bruxelles sur différents autres secteurs. Et ça, c'est quand même une situation incroyable où on a un Conseil fédéral de plus en plus à la botte de Bruxelles et de moins en moins représentant des intérêts suisses à Bruxelles. On a effectivement le sentiment aujourd'hui que le conseiller fédéral qui nous représente lors de dialogues avec l'Europe, qu'il rentre déjà en rampant dans la salle des négociations, qu'il est d'accord, qu'il dit oui. Voilà, il est d'accord. Et puis, sa mission consiste maintenant à tenter de missionner les Suisses sur ce qu'il faut faire pour satisfaire les exigences de Bruxelles. On a de plus en plus ce sentiment-là.
Est-ce qu'on pourrait dire que le parlementarisme est en train de parasiter la démocratie directe?
Oui, alors ça, je crois qu'on peut effectivement le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de voir clairement le pouvoir échapper aux mains des Suisses. On a souvent dit, les Suisses, ils peuvent voter presque sur tout. Ils peuvent voter sur comment gérer les déjections canines dans les rues. Mais bientôt, les Suisses ne pourront plus que voter sur ce type de questions-là. Toutes les questions importantes pour l'avenir de notre pays, elles seront volées aux Suisses. On ne va plus nous permettre de nous exprimer. On va faire du Parlement suisse une sorte de chambre d'enregistrement des décisions de Bruxelles que nous allons devoir, sous pression internationale, sous chantage international, devoir absolument signer sous peine de voir notre pays sombrer dans une crise interminable. Ça, c'est déjà d'ailleurs le discours qui est employé aujourd'hui pour inciter les citoyens à refuser l'initiative de l'UDC. Une initiative qui finalement ne demande rien d'autre que de permettre à l'État souverain, ce que nous sommes encore, ce que nous espérons encore être dans quelques années, de pouvoir gérer souverainement son immigration. Donc, il n'y a véritablement pas du tout de scandale ou d'article immoral à soutenir l'initiative de l'UDC.
On parlait tout à l'heure de la force de frappe médiatique de l'État suisse, hein, du gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfait, en général du traitement réservé à cette initiative dans les médias publics ou même dans certains médias privés? Parce qu'on sent, on sent qu'il y a quand même la pression dans la profession journalistique d'une certaine éthique, d'une volonté affichée d'être neutre. Alors il y a certains débordements, ça c'est évident, mais est-ce que globalement l'UDC est satisfaite du traitement réservé à son initiative?
Alors, on ne peut pas être satisfait, non, parce qu'aujourd'hui, et c'est pas vraiment pas nouveau, c'est un phénomène récurrent, en tout cas depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, c'est une systématique de diabolisation de l'UDC dans ses prises de position, tentative de censure de notre parti, tentative de biaiser ses propos. Alors, même si on peut considérer ici ou là que la situation n'est pas aussi dramatique qu'il y a quelques années, de manière globale, l'UDC reste clairement défavorisée dans sa représentation, aussi parce que elle est seule contre tous. Alors, les rédactions ont souvent beau jeu de nous dire ou de nous rappeler qu'on doit probablement réserver le plus ou moins temps de parole identique contre tous les partis politiques, mais contre tous ces partis politiques partagent une même opinion. Est-ce que seul l'UDC défend un avis contraire? Évidemment que le temps de parole pour les représentants d'une certaine idée de la Suisse est fortement réduit. Et là, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Comment est-il possible de voir aujourd'hui le Parti socialiste suisse et le Parti radical manger à la même table sans trop se poser de questions pour défendre cette immigration de masse, par exemple? Là, il y a probablement, du côté de ces partis, une véritable remise en question qui devrait être à l'ordre du jour. C'est plus possible de voir cette espèce d'unité de doctrine sur l'ensemble des partis politiques représentés au gouvernement et puis l'UDC seul. On a bientôt le sentiment que le principal problème du Conseil fédéral, c'est de savoir comment museler l'UDC et puis pouvoir être tranquille et faire son travail sans être enquiquiné toujours par les mêmes qui l'empêchent d'avancer.
Enfin, ce qui est quand même surprenant, c'est encore la grande confiance du public envers la radio suisse romande, la télévision suisse romande, qui sont des institutions maintenant pratiquement séculaires dans quelques temps. On a l'impression que personne ne réalise qu'il y a un lien d'intérêt, d'une évidence pourtant extrêmement simple, entre l'employeur et l'employé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé, ça?
Alors évidemment, donc il faut savoir en Suisse, donc au demeurant, que l'ensemble des médias radio-télévisuels dépendent de la manne de la Confédération. Alors la RTS, ça, je crois que c'est connu, mais même les petites télés cantonales ou régionales dépendent en fait des subsides fédéraux. Donc il est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui attendre de ces médias-là qu'ils aient une attitude ouvertement critique à l'égard des autorités, à l'égard du Conseil fédéral, parce qu'ils reçoivent précisément l'argent du Conseil fédéral, notamment les télés un peu plus modestes. Pas toutes reçoivent ces subventions, celles qui ne les reçoivent pas sont obligées de fermer. Donc évidemment qu'on hésite avant de critiquer ouvertement la politique du Conseil fédéral, parce qu'on se demande si cette attitude-là ne va pas péjorer ensuite notre propre position pour recevoir des subventions fédérales. Et à la radio, on a exactement le même phénomène. Oui, on a un vrai problème avec la liberté de la presse, la liberté d'opinion en Suisse. C'est pas nouveau. Ça fait également des années que l'UDC dénonce cet état de fait et réclame plus de liberté de la presse en Suisse, parce que là, on a un vrai déficit en matière de démocratie et de diffusion de l'information.
Et une nouvelle amusante, c'est qu'hier, dans l'émission de la télévision suisse romande TTC, lors de l'analyse de vos affiches de campagne, la voix off de l'émission vous accuse d'utiliser la couleur dite le rouge suisse, n'est-ce pas, qui serait la même couleur que les affiches anticommunistes d'il y a plusieurs décennies. Est-ce que vous pensez que c'est une analyse pertinente?
Je pense surtout qu'on avait manifestement un certain besoin de remplir une case vide du côté des médias pour pouvoir affirmer une telle chose. Le rouge, l'utilisation du rouge, l'UDC en fait une grande utilisation, non pas parce que ça a été la couleur fétiche des communistes, mais bel et bien parce que c'est la couleur dominante du drapeau suisse. Nous sommes d'ailleurs parmi les grands partis du pays, en tout cas les partis gouvernementaux, nous sommes les seuls à utiliser le drapeau suisse dans notre logo. C'est pas sans signification. Là, de nouveau, j'aimerais une fois pouvoir poser la question pourquoi est-ce que le PLR, le PDC, le PS aussi, comme ça, ne veulent pas afficher les couleurs de notre pays pour montrer finalement leur attachement, hein, qu'ils réclament bien volontiers. Nous sommes donc les seuls à le faire. Si vous regardez également les visuels UDC de ces 10 dernières années, il n'y a pas un seul visuel où vous ne voyez pas quelque part une croix suisse. Donc on est véritablement, c'est notre volonté, on s'affiche clairement du côté de la Suisse, on affiche notre drapeau et donc on affiche également cette couleur rouge qui est indissociable du drapeau suisse.
Alors globalement, c'est positif pour vous cet acharnement, vous êtes confiant pour le 9 février?
Alors, je dirais pas que cet acharnement est positif. Par contre, je pense effectivement que les Suisses ne sont pas idiots, ne sont pas des moutons qui suivent bêtement ce que les autorités leur demandent de faire. Je crois qu'on a toujours pu constater que le peuple avait une certaine intelligence collective. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes ont quand même pu constater que cette libre circulation, c'est de loin pas l'Eldorado qui a été promis il y a 10 ans. Que le Conseil fédéral n'a pas tenu les promesses pour lesquelles il s'était engagé à l'époque, et que, eh ben, probablement qu'une renégociation est nécessaire. Ce sentiment est partagé par suffisamment de Suisses pour que ça se traduise par un oui dans les urnes de février. Ça, c'est encore aujourd'hui difficile à dire, mais tout du moins, ce qui est sûr, c'est que le résultat final sera très serré. Nous espérons bien évidemment et nous mettons tout en œuvre pour mobiliser ces gens, ces électeurs qui aujourd'hui considèrent qu'il est nécessaire et urgent de renégocier avec Bruxelles.
Kevin Grangier, porte-parole adjoint de l'UDC, nous vous remercions.
Merci à vous.